Donc, je ne sais pas si vous savez ce que vous faites là. Vous savez ce que vous faites ici dans... Non. Donc, en fait, on a, avec l'aimable collaboration de Wendy Jasmine, organisé une soirée en une tripartite. Ça se dit?
Une triplette.
Une triplette. Avec une première partie podcast qui s'appelle Amour, gloire et chips. Ensuite, il y aura trois stand-uppeuses qui sont devant, qui devraient être ici pour nous écouter, mais qui sont devant en train de fumer des clopes. Et puis un concert de Oberbaum pour clôturer la soirée. Voilà. Ah, tu dois dire quelque chose.
Oui, moi j'aimerais bien quand même dire quelque chose.
Ah ben voilà, tu dis quelque
avant
chose.
Avant qu'on se lance officiellement dans le podcast. Donc je vais probablement plomber l'ambiance, mais enfin, c'est mon, that's my job. Donc on est là pour passer un bon moment, effectivement, mais on n'est pas là pour se débrancher les cerveaux. Même si c'est pas nécessairement le cœur de nos discussions, de nos blagues et de nos chansons, je veux pas que cette soirée éclipse de nos esprits ce qui est en train de se passer à Gaza. C'est pas une guerre entre Israël et le Hamas, c'est un nettoyage ethnique et un génocide. Et en fait, si on peut faire quelque chose, donc montrer son soutien avec le peuple palestinien, il y a des rassemblements quotidiens à deux pas d'ici, devant la bourse, et d'autres manifestations d'ailleurs pour dénoncer la tiédeur mortifère de l'État belge et de l'Union européenne face à ce massacre. Vous pouvez aussi acheter des cartes eSIM pour que les civils puissent rester connectés entre eux et avec le reste du monde. En fait, en fonction de votre taf, de votre position dans la société, vous avez vos propres outils pour résister à cette version fasciste du monde. Donc comme là, les syndicats des transports l'ont fait en refusant d'acheminer des armes belges au gouvernement israélien. Enfin, restez informés. Je vous invite aussi à regarder ce qui se passe dans la région du Kivu au Congo. Les exactions, crimes et atrocités qui ont lieu notamment avec le soutien des multinationales de la tech, parce que en fait, elles ne veulent qu'une chose, c'est l'accès au coltan. Et en fait, oui, ça nous concerne directement parce que c'est un minerai nécessaire au fonctionnement de nos appareils électroniques. Donc voilà, en fait, on est concernés et il faut s'informer et puis aussi manifester notre mécontentement face à tout cela. Bon, allez, un peu d'amour, de gloire et de chips. Jingle.
Ah, jingle.
Ah oui, on a un jingle.
Amour. Amour. Gloire.
Chips.
Gloire.
And chips.
Chips.
Fade out.
La classe.
Hop là, voilà. Bon, je refais le bonsoir, pardon. Donc voilà, là c'est officiellement démarré, la soirée a démarré. Merci d'être présent pour l'enregistrement, le deuxième enregistrement live dans l'histoire de Amour, Gloire et Chips. Mm-hmm. On reçoit Maya Ajmia, qui est directrice de casting, productrice, réalisatrice, DJ, tout ça.
Et peut-être on va, enfin, en intro, on peut revenir sur. En fait, nous, on s'est rencontrés lors d'un enregistrement de At This Moment, directement dès les premières minutes, instant autopromo. Et donc en fait c'était pour parler de musique. Je vous invite à aller l'écouter. On va pas refaire tout l'épisode ici. Et du coup, je vais commencer avec une question. Quelle serait pour toi la BO de cette journée?
Waouh, ah, ça c'était une question compliquée. Je m'y attendais pas. En vrai de vrai, si je dois répondre spontanément, il y a une chanson que j'ai écoutée beaucoup aujourd'hui, donc je pensais celle-là. C'est une chanson de Lacrim, Ocean Drive, et je trouve que ça fait grave musique de film, alors que je trouve que Lacrim a pas beaucoup de chansons qui font musique de film, mais là pour le coup, ouais. Et ouais, ça va bien avec la chanson d'aujourd'hui. Où t'as un peu envie de t'évader, tu te prends pour quelqu'un que t'es pas du tout. Et ouais, c'est l'effet que cette chanson me fait.
Ok, j'avoue, je la connais pas, mais j'irai l'écouter.
Mais elle est pas très connue, c'est de son dernier album. Donc voilà.
Et comme on parle de musique, donc dans le podcast At This Moment, t'avais parlé d'un morceau de Soprano, il me semble.
Ouais.
C'est ça. Mm-hmm. Mais qui est pas le même que celui dont tu parles dans le livre. Donc,
ah.
Donc Maya Ajmia a écrit. Ouais. Une partie donc dans Her Story, qui est un livre qui est sous-titré Féminisme, minorité et visualité. Mmh. Et donc il y a une de tes histoires dedans où tu parles d'un autre morceau de Soprano qui dit pour me défendre, j'ai mis des gants de boxe sur mes lèvres.
Oui, c'est là, ça c'est le divan, la chanson. Je viens de me rappeler.
Ouais.
Ouais.
Et donc je sais pas du tout où j'allais avec ça.
Ah oui,
c'est
voilà,
juste
bravo.
Que
déjà,
quand,
il sort des lignes.
Quand je l'ai lu, bah, je trouvais que ça collait assez fort, évidemment, avec bah, tout ce que j'ai lu après sur l'histoire, enfin sur ton histoire par rapport justement à la création du collectif, pourquoi tu l'as créé, tout ça.
Ouais.
T'as mis des gants de boxe sur tes lèvres, quoi.
Ouais. Voilà. Bah totalement. Mais jusqu'à maintenant, cette phrase, elle résonne de dingue. Et c'est marrant en fait parce que. Ça faisait longtemps que j'avais plus réécouté cet album et ça fait une semaine que je me suis remise à l'écouter, dont cette chanson. Et à chaque fois que j'écoute, je me dis que je ressens exactement la même chose que quand j'étais ado et que j'avais écouté pour la première fois, quoi. Ce truc de se dire, y a des gens qui ressentent la même rage que moi, de la même manière, etc. Même si au final, Soprano et moi, je veux dire, on n'a pas les mêmes origines, on n'est pas nés, on n'a pas le même genre, on n'est pas nés sur au même endroit, on partage la même religion, mais c'est tout en fait. Donc voilà.
On va faire un mini saut de l'adolescence à l'âge de jeune adulte et du coup ton parcours scolaire dans les études supérieures. j'ai lu justement dans le bouquin que voilà, t'avais commencé un peu par des études, on va dire, classiques, donc de com. Je pense qu'on est beaucoup à se diriger vers la com, en mode, OK, on ne sait pas quoi faire, on va faire de la com, parce que nos parents veulent qu'on aille
exactement
à l'UNIF. Et en fait, ouais, après, tu t'es tapé une déter, parce que, donc en fait, après avoir loupé plusieurs années, donc t'as quand même commencé l'IAD.
Oui, j'ai fait un an à l'IAD, en effet.
Voilà. Ouais. Et mais donc après, en fait, t'avais, selon les règles, je ne sais pas qui fait ces règles-là, mais t'avais loupé trop d'années, et donc t'étais plus finançable.
C'est ça.
Et donc l'ultime déter est donc de partir faire des cours de cinéma en néerlandais.
Ouais, ça me paraissait moins compliqué de faire ça que de faire de la paperasse de dérogation, de trucs administratifs où j'étais même pas sûre. Et mais en vrai, j'ai toujours été attirée par la culture flamande, donc c'est pas non plus un truc. Enfin, bien sûr, ça a été un choix quand même pas facile à prendre vu que je parlais pas néerlandais. Enfin, j'avais un niveau comme toute personne francophone qui a été à l'école à Bruxelles, donc ça veut dire nul. Et en plus de ça, j'ai réalisé que le néerlandais qu'on apprend à l'école n'a absolument rien à voir avec celui qu'on parle.
Je l'ai dit plein de fois à mes profs.
Mais vraiment zéro. Mais j'étais déjà dans un milieu où. Je côtoyais beaucoup de personnes bilingues. Je passais déjà beaucoup de temps à Sainte-Catherine. Enfin, ça a l'air super cliché comme ça. Mais en vrai, c'est ce qui m'a mis... Allez, c'était le premier pas dans ce milieu flamand où j'entendais des gens qui étaient au Ritz, qui étaient à Sint-Lucas. Et où, en fait, j'ai su que ces écoles existaient. Parce que, enfin, en général, quand t'es francophone, t'es tellement dans un autre monde. Tu sais même pas citer les deux écoles de ciné en Belgique flamand, quoi. Flamande. Et... voilà, donc c'était inimaginable pour moi d'arrêter mes études, en fait. J'allais faire quoi ? Enfin, voilà, non, il me fallait une porte d'entrée. C'est pas comme si j'avais des contacts dans le cinéma et que j'allais pouvoir me faire un stage par moi-même, puis un autre stage, puis réussir à me faire toute seule. J'avais vraiment besoin de l'école et c'était aussi une garantie pour mes parents d'avoir un diplôme.
Mm-hmm.
C'était le minimum du deal. Enfin, même ça, ils n'étaient pas trop d'accord. Alors, si en plus, il n'y avait pas à avoir de diplôme, ça allait être chaud. Mais ouais. En mais fait, j'ai pas trop réfléchi.
Mais parce qu'en fait, au moment où tu démarres les études en com, parce que à ce moment-là, tu te dis, c'est pas. Enfin, ouais, les études artistiques, c'est pas trop une option.
Oui, en fait, c'est drôle parce que ma mère a fait des études artistiques. Mais pour carrément une autre raison. Donc, mon père est tunisien, ma mère est danoise. Et en gros, ils se sont rencontrés à Bruxelles. Je fais la version très courte. Elle était venue pour faire fille au père un an et apprendre le français. Sauf qu'elle a rencontré mon père et donc elle est restée ici. Lui, elle n'avait pas ses papiers. Donc, il avait un visa étudiant. Donc, s'il n'étudiait plus, bah, il ne pouvait plus rester. Et en fait, au Danemark, le système fait que tu reçois de l'argent de l'État quand tu étudies, que ça soit au Danemark même ou à l'étranger.
Okay.
Sauf que ma mère parlait pas français, donc elle s'est dit, ok, dans quoi est-ce que je peux m'inscrire comme études qui vont pas être trop compliquées au niveau de la langue. Et donc, elle a fait du design textile et puis de la scénographie. Enfin, ça s'appelait tapisserie à l'époque. Mais bon, elle a fait ça pour recevoir de l'argent de l'État dans un premier temps et parce qu'elle s'est dit ça m'intéresse et bon, pas besoin de la langue pour faire ça et ça a permis à mes parents de survivre quand même pendant 3 ans. Donc même si elle l'avait fait, elle n'a jamais travaillé avec ça. Enfin, ma maman a fait le plus beau métier au monde, elle s'occupait de ses enfants. Et
mais donc, c'est fou, malgré cet exemple-là, oui, ça paraissait pas être une option au départ.
Parce qu'au final, ça n'a pas ramené une stabilité financière à la maison. Elle n'a pas travaillé là-dedans. Donc, sortir le joker, toi, tu as fait ça, ça ne fonctionnait pas parce que c'était carrément dans un autre contexte.
Ok.
Et oui, il y a la question de la stabilité financière, mais aussi, en fait, c'est un métier qui est tellement incertain. Et maintenant, avec le recul, je comprends totalement. En tant que parent, tu te dis, c'est un métier où tu n'es pas du tout sûr que ton enfant il puisse arriver à ce qu'il a envie de faire, en fait. Mm-hmm. Et du coup, voilà. Mais après 2 ans à l'IAD, ils m'ont vu faner comme une fleur. Et j'étais en train de mourir, quoi. C'était horrible. Et là, de toute façon, il n'y avait plus le choix. C'est tant que eux, leur but, c'était juste que je fasse quelque chose que j'aime parce qu'ils ont compris que je ne fonctionnais pas comme ça, en fait, de faire les choses à moitié. Soit c'est à fond ce que j'aime, soit rien du tout, en fait. Ouais. Il n'y a pas trop d'entre-deux.
Mais par ailleurs, l'envie de cinéma était déjà là, déjà présente.
Parce qu'à l'IAD, c'était déjà du cinéma que
tu faisais
là-bas.
Oui, c'était de la réalisation. Donc, c'était après la com.
C'est ça, mais donc parce que tu dis à l'IAD, tu fanais.
Non, Aliex.
Aliex.
Purée, le lapsus révélateur.
Voilà.
En soi, les études en tant que telles à l'IAD, j'ai aimé, mais j'ai pas du tout aimé l'école, donc c'est pour ça que je dis lapsus révélateur. Mais non, l'IAD, ça m'a aidé à comprendre que c'est ça le métier que je voulais faire. Mm-hmm. Parce que jusqu'à là, en fait, le métier de réalisation, c'est tellement flou. Ouais. Je savais pas trop ce que c'était. Même quand je me suis inscrite, je me suis inscrite en option réalisation, mais en vrai. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Enfin, je pensais encore qu'une réalisatrice, c'est celle qui filmait, quoi, par exemple. Mmh, donc voilà.
Bah, c'est le cas quand on n'a pas de budget, pas d'équipe, mais...
Oui, très juste.
On va passer sur une des réalisations que tu as faites quand tu étais à Lucas School of Art, c'est ça?
Oui, ça c'est... Ouais.
Enfin, je ne sais pas si c'est ça le nouveau nom. Ouais.
Moi, j'avais peut-être un truc avant.
Ah oui, vas-y.
C'était justement... Est-ce qu'il y a eu des... Enfin, qu'est-ce qui a fait justement que tu aies eu envie de faire du cinéma? Tu vois, ça a été quoi le déclic? Tu vois, est-ce que quand tu étais enfant, tu te filmais, tu aimais bien faire des scénettes? Tu vois, moi je me souviens, je fais du podcast parce que quand j'étais petit, j'enregistrais des cassettes où je parlais. Mm-hmm. Tu vois, et c'est un truc qui m'a toujours suivi. Donc est-ce que toi, tu as eu ce genre de choses quand tu étais enfant ou qu'est-ce qui t'a amené à faire du cinéma, enfin de la réalisation?
C'est une très bonne question et en fait je trouve ça compliqué.
Merci.
Je trouve ça compliqué parce que pour moi ça n'a pas du tout été un truc sûr depuis que je suis petite. Enfin, par exemple, j'ai jamais été cinéphile. Je me suis souvent retrouvée en classe avec des personnes qui avaient une culture cinématographique de dingue et enfin voilà, quoi, tous les festivals et tout. Moi ça n'a pas du tout été mon cas. J'adorais la créativité, mais sous toutes ses formes. Donc oui, j'ai beaucoup filmé. Mon papa, il y a toujours eu une caméra que j'ai beaucoup utilisée. Mais au final, c'était pas filmer que j'aimais le plus. Je pensais que c'était de donner des ordres, clairement, à mes copines, à mon petit frère. Toi, tu fais ci, maintenant, tu fais ça. Écrire des pièces de théâtre, écrire des chansons. Donc c'était vraiment... C'est pour ça aussi que ça a été très dur pour moi de savoir ce que je voulais faire de ma vie parce qu'il n'y avait pas quelque chose de clair. Et je ne m'étais jamais imaginée dans un domaine artistique parce que pour moi, un domaine artistique, c'était de la peinture, du dessin, de la sculpture. Enfin, la réalisation, c'est quand même très, très flou, en fait. Et une chose qui m'a aidée, c'est... je pense que j'avais 18 ans environ et mon cousin, de qui je suis très proche, qui du coup, lui, a 9 ans de plus que moi... avait commencé une école mais technique d'image et moi c'était plus pour l'imiter mais au fond je sais pas si à ce moment-là je voulais vraiment faire du cinéma ou je voulais juste en mode ouais je vais faire comme lui parce que je le recopiais dans tout de toute façon et là c'était ma nouvelle lubie ouais je vais faire du cinéma sauf que ça m'a eu parce qu'au final j'ai vraiment aimé ça.
Donc ouais, ça, je voulais passer sur une des réalisations que tu as faites qui s'appelle Yasmine et Smaïn. Donc un film expérimentalo-hybride du net, mélange de fiction, de docu qui est dispo sur Insta en 3 parties. Et en fait, ouais, c'est ça, je me dis, vu que c'est sur Insta, en fait, tu l'as fait parce que... Enfin, tu as décidé de faire ça en pensant au public auquel tu allais t'adresser. Et je veux savoir justement, c'est quoi dans ton processus créatif, dans ta réflexion, c'est quoi la place que tu donnes au public? Parce que aussi bien il y a des créateurs, créatrices qui créent juste parce qu'elles en ont besoin ou pour elles-mêmes, tu vois. Et là, je vois qu'il y a une, enfin, il y a vraiment une, la place du public est assez importante dans la forme, dans le ton et tout. C'est quoi la réflexion?
En fait, je pense que c'est un peu un mélange des deux. Au début, ça partait d'un besoin personnel où en fait, il y avait un garçon, il me prenait grave du temps à me répondre sur WhatsApp. Et en fait, je voulais pas trop voir la réalité. Et voilà, il me laissait en vue pendant 2 semaines. Il y a un moment, il faut comprendre par soi-même. Mais moi, j'ai dit, je voulais pas voir la réalité en face. Et du coup, j'avais voulu écrire sur un personnage comme ça qui a trop d'espoir en un couple qu'elle s'est imaginé. Sauf que voilà, le garçon, il donne pas autant que t'aimerais qu'il te donne. Et pourtant, c'est pas un méchant, il t'a rien fait espérer. C'est toi qui te fais des films. Donc c'était vraiment... je me suis dit, ok, ça me parle. Je suis en train de plus ou moins vivre ça. J'ai envie d'aller vraiment dans l'exagération et d'écrire dessus. Mais très vite, je me suis dit, mais pour moi, ça n'a absolument pas de sens de mettre cette vidéo sur Vimeo comme je l'ai fait pour le reste de mes travaux. Ça, c'est quelque chose... En plus, j'utilisais tellement de codes qui me parlent à moi, mon entourage, d'autres Bruxellois, que je me dis... Enfin, ça a été très, très logique. Même ce truc de commentaires, en fait. Mm-hmm. Sur Vimeo, je ne sais même pas si tu peux mettre des commentaires. Enfin, je suppose que oui, je ne sais pas. Mais qui le fait? Personne. Là, il y avait un truc de partage, les gens pouvaient répondre en message privé, en commentaire public. Il y a un truc du direct, et c'est ça que je cherchais. Et ça collait vraiment avec le personnage aussi qui est dans un truc très, très réseaux sociaux, en fait. Mmh. Parce qu'au final, oui, les réseaux sociaux, ça a une grande place dans ce projet-là. Donc, ça faisait sens.
Ouais, en fait, enfin, je crois que je vais potentiellement souvent citer des trucs que t'as postés, que ce soit des stories, des posts autres sur Instagram, parce que t'es très très active sur les réseaux. Et en fait, ouais, c'est ça. On parlait de réciprocité, des codes et en gros des références communes que t'as avec les gens qui te suivent et qui pouvaient interagir du coup avec ces 3 épisodes que t'as mis sur ton IGTV. Et dans les codes, il y a un setup télé-réalité, il y a les images un peu snack bruxellois. Et en fait, sur la télé-réalité, pardon, je me souviens, t'avais une fois posté une story où t'étais devant je sais plus quelle grosse boîte de prod de télé-réalité, mais en faisant une blague, en disant je vais chambouler la télé-réalité. Et je crois que les gens ont surréagi à ce truc-là, genre ils l'ont pris prom dog. Je sais plus qu'est-ce qu'ils disent. Enfin, ils étaient très encourageants, cela dit, je crois.
J'ai supprimé la story après 1 heure au final parce que j'avais eu trop de réactions où les gens pensaient que c'était vrai. Et moi, je suis hyper vite gênée en vrai. Enfin, on dirait pas, mais en vrai, surtout être complimentée pour un truc qui se passe pas et que j'ai pas fait, c'est super gênant. Donc, je me suis dit non, mais même pour la blague, c'est pas drôle, j'enlève.
Dans ce film, donc dans ton film en 3 épisodes, il y a, je l'ai lu justement dans Her Story, tu as dû. Amené à cause d'une incompréhension avec ton prof qui comprenait pas vraiment les codes, tu as dû amener les fameux linguistes bruxellois. Donc je sais pas si tu peux un peu expliquer comment c'est arrivé et comment qu'est-ce qui passait pas avec le prof, qu'est-ce qui faisait qu'il comprenait pas et comment tu as eu cette idée de génie finalement d'amener ces linguistes.
Une contrainte est devenue élan créatif.
Non, clairement, ça fait partie du processus créatif. Donc, en gros, de base, j'avais construit mon projet et je voulais que les acteurs, qui étaient donc des acteurs non professionnels, parlent avec le plus d'argot bruxellois possible. Et en fait, déjà, il y a un problème de langue. Enfin, pas un problème de langue, je suis habituée, j'ai dû sous-titrer tous mes travaux, toute ma scolarité parce que j'ai tourné qu'en français, il me semble. Mais là, je m'étais dit, ah oui, mais en fait, comment je vais faire? Parce que oui, je traduis en néerlandais, mais même, il y a l'argot, comment je traduis ça, etc. Et en fait, le problème, c'est que il n'y avait pas que de l'argot, il y avait des concepts. Enfin, c'était vraiment des inside jokes. Et je me suis dit, mais moi, je ne peux pas montrer ça à mes profs. Ils sont censés me donner une note là-dessus. Ils vont juste rien comprendre. Je vais avoir 0, quoi. Et c'est déjà arrivé que j'ai des notes un peu bizarres parce qu'on ne comprend pas ce que je fais. Et du coup, j'ai eu l'idée d'incorporer les personnages de linguistes bruxellois. Donc, je les ai appelés comme ça. Donc, c'était 3 représentants de 3 communes de Bruxelles. Il y avait Jette, Ixelles et Molenbeek. et où ils décortiquaient chaque expression bruxelloise ou chaque mot pour les réexpliquer à leur manière. Et en même temps, bah, ça permettait à que ça soit compréhensible et accessible à tout le monde, même les personnes pas bruxelloises. Et enfin, ça n'a rien avec Bruxelles, même personne qui n'avait pas ces codes-là, en tout cas. Et en même temps, ça a rajouté un vrai truc à l'histoire, donc ça a bien fonctionné. Mais ce qui est marrant, c'est que même en faisant ça, il y a des choses qui passent à la trappe, ou des choses juste, ça résonne différemment. Et oui. Un exemple marquant, donc je me rappelle, à mon jury, j'ai montré une autre version, je pense que celle qui est sur Instagram, un peu plus courte et un peu différente, parce que sinon ça allait être trop long. Et en fait, à un moment, il y a une référence à la piscine de Diest. Et en fait, pour beaucoup de Bruxellois, la piscine de Diest, c'est la piscine où, enfin, c'est une piscine publique où beaucoup de jeunes, souvent d'origine maghrébine, vont là-bas pour draguer. C'est un peu là où les jeunes se retrouvent. Enfin, les jeunes en dessous de 20 ans, en tout cas, en dessous de 18 même. Et voilà. Enfin, moi, je suis avec mes amis quand on dit Diest. Par exemple, on va faire des... Enfin, il y a plein de blagues dessus. Et en fait, pour eux, c'est juste une ville flamande. Ouais. Et ils étaient morts de rire quand la personne a parlé de Diest, mais juste en disant « Ah, mais comment ça se fait que des Arabes de Bruxelles connaissent Diest ?» Mais enfin, c'était okay. Pas du tout là. Mais c'était pas ça, la blague, en fait. La blague, c'était ce que la piscine représente, que des gens font croire qu'ils sont à Dubaï alors qu'ils sont à Diest. Et enfin, voilà, eux, juste le fait qu'une ville flamande soit citée, c'était ultra drôle, quoi. Donc... comme quoi, maintenant que ça fait rire, c'est l'essentiel, ouais. J'ai envie de dire.
Et je peux demander comment a été noté ce travail ?
Je pense que j'ai eu une bonne note. En fait, en vrai de vrai, j'ai quasi eu que des bonnes notes.
Allez là.
Ah, c'est une cas, je me suis beaucoup, beaucoup battue. Mais je pense que... ouais, non, je pense que j'avais plutôt bien réussi.
Félicitations. Et en fait, à côté aussi de toutes ces refs hyper contemporaines de la jeunesse bruxelloise, je voulais savoir aussi si, enfin voilà, tu disais ok, t'es pas spécialement cinéphile au départ, t'as pas, ça fait pas depuis que t'as 8 ans que tu sais que tu veux faire ça, mais est-ce que t'as quand même l'impression d'avoir, enfin en fait de poursuivre une sorte d'héritage, parce que là je vais encore faire une ref à une story que j'ai vue qui m'avait genre beaucoup trop émue, c'était pour je ne sais plus lequel de tes anniversaires, mais où ta famille à Tunis t'a offert un livre sur les réalisatrices tunisiennes, et t'avais aussi été hyper touchée.
Ouais, franchement, je m'attendais pas du tout. Je pense que du coup, ma famille sait que je fais du cinéma, bien sûr. Jusqu'à maintenant, je pense que tous les membres de ma famille comprennent pas encore à 100% ce que c'est, enfin... notamment en Tunisie, où jusqu'à il n'y a pas longtemps, beaucoup de personnes confondaient avec le journalisme, etc. C'est encore un peu flou. Et je sais que c'est mon oncle qui l'avait acheté et qui a écrit que c'était de la part de tout le monde, même si je sais que c'est lui. Mais juste la symbolique d'avoir ta famille qui t'offre un livre sur réalisatrice tunisienne, je trouvais ça hyper fort. Et non, ça m'a trop émue, parce que pour moi, c'était... Ça voulait juste dire on te soutient, on sait c'est quoi ton métier, on sait que tu vas y arriver. Et dans le livre, c'est que des femmes qui ont réussi, quoi. Mm-hmm. Donc voilà, non, c'est... Même là, je suis émue, juste en repensant.
Un point beaucoup moins émouvant, quoique. Il y a effectivement la question des budgets de production.
Ouais.
Et pour avoir aussi fait une petite incursion dans le cinéma, je sais qu'ils sont, si pas inexistants, en tout cas très très maigres. Et comme on a parlé plus tôt justement des contraintes qui deviennent en fait finalement des élans créatifs, je sais que toi, en fait, dans plein de choses que tu fais, mais j'imagine déjà dans le cinéma quand t'étais aux études, mais même en fait dans tous les autres projets que tu fais, il y a beaucoup de système D. Et voilà, je voulais voir si t'avais des choses à dire là-dessus. Et sinon, enfin en fait pour moi, j'ai l'impression que je me dis, si jamais à un moment je me retrouve dans une position où je dois engager des gens, je vais clairement aller vers celles et ceux qui ont fait des trucs avec rien pendant des années, parce que ça veut dire que c'est des gens hyper débrouillards et qui en veulent.
Ouais, clairement. J'ai pas de secret ou d'hyper bon conseil à donner. Enfin, vraiment, ce qui a toujours fonctionné pour moi dans la débrouille, c'est d'avoir aidé pas mal de personnes et d'avoir bénévolement testé des choses. Et en fait, les gens, ils te le rendent tout le temps. C'est vraiment ça. Enfin, je me suis dit, c'est fou. toutes les facilités ou les aides concrètes que j'ai pu avoir parce que une fois j'ai aidé cette personne qui est le pote de cette personne, et puis Bruxelles c'est très petit en plus, donc les gens entendent vite parler les uns des autres. Moi c'est vraiment ce système d'entraide informelle, moi c'est ça qui m'a sauvée dans mes projets cinématographiques ou pas d'ailleurs, pas que, et qui ont créé en fait de très belles collaborations. Donc, mais en fait, collaboration, pas que toi tu travailles pour moi aussi, je sais pas, tu me loues ça pour ce prix-là, etc. Enfin,
oui,
voilà.
Je me souviens, quand, je crois que c'était, vous faisiez je sais plus si c'était un stage d'acting, mais en tout cas, dedans, il y avait un moment des cascades, vous deviez, enfin, il y avait une partie cascade, et vous recherchiez des matelas, et j'étais là, ah, mais il y a telle salle, d'escalade, vas-y, appelle-les, c'est sûr, ils vont te prêter des matelas.
C'est un très bon exemple, c'est vrai. On s'est retrouvés 2 jours avant le stage sans. Matelas de cascade, et voilà, enfin nous le stage c'est hyper précieux pour nous, c'est des jeunes qui attendent ça depuis des mois, le stage cascade, enfin la journée cascade c'était la journée qui était le plus attendue, on pouvait pas leur dire on annule parce qu'on n'a pas le matériel, et ça s'est partagé hyper fort en story et tout, et on a trouvé même plus qu'assez, donc et d'ailleurs c'est un hyper bon souvenir parce que ça fait plus d'un an ils en parlent toujours de ce truc de cascade.
Et le stage cascade, c'était dans le cadre du collectif, avec le collectif Bléda.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Mm-hmm. Collectif que tu as monté, où tu voulais en parler plus tard, toi, du collectif.
Non. Écoute, je vois bien que mes lignes directrices.
Oui, mais bon, voilà, à un moment donné.
Vous allez à du direct.
C'est ça.
Go with the flow.
C'est ça. Et ben, comment on parlait de l'atelier, justement, et de ça. Comment est né le collectif et.
Alors, c'était en 2017, je pense. J'avais participé au camp d'été des coloniales. Donc, c'était un camp à l'antiracisme politique qui a eu lieu pendant 2 éditions en France. Moi, j'ai participé juste à la dernière édition. Et en revenant de là, ça m'avait donné vraiment un élan de plein d'adrénaline, de plein d'idées, de plein de choses. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de... Je précise quelque chose avant de continuer, parce qu'on a tendance à oublier, à cette période-là, 2017, ça paraît pas si loin, mais en vrai, c'était pas du tout à la mode, les sujets de décolonisation, d'antiracisme, même de féminisme, c'était juste après MeToo, donc ça commençait, mais il y avait pas du tout, enfin, le mot safe place, ou safe space, ou tout ça, ça n'existait pas encore, enfin, en tout cas, pas à Bruxelles, de manière aussi, dans des milieux aussi, peut-être dans des milieux beaucoup plus alternatifs, oui, mais pas dans les milieux dans lesquels moi j'étais. Et donc j'avais proposé à des copines de faire un cercle de parole, en fait. Donc on n'était que des filles non blanches, où on parlait de nos expériences liées au racisme, au sexisme et à l'homophobie pour certaines. Et en fait, ça nous a donné une force de dingue. Mais ça, c'était vraiment c'était confidentiel, personne ne le savait, on mettait pas de photos sur les réseaux, il n'y avait pas de nom, enfin, Blédard n'existait pas. On n'avait jamais pensé, enfin, on n'avait pas se nommer, c'était juste, on se donne un rendez-vous quelque part, la nourriture et on parle. Et en fait, on avait beaucoup de frustration vis-à-vis du monde de l'art, parce qu'on était plusieurs à être actifs dans ce milieu-là. Et de là, on a eu l'idée de, d'abord, on voulait faire une expo, puis l'une voulait faire un concert, l'autre voulait faire ci, et au final, ça s'est transformé en une idée de festival. Et bah, donc là, on a dû se constituer en ASBL, trouver un nom, et du coup notre premier événement c'était en juillet 2018, et c'est ça qui a commencé vraiment la naissance de Blédart. Et maintenant on est vraiment beaucoup plus axé sur l'éducation permanente, donc on fait moins d'événementiel, on fait moins de choses parce qu'on a beaucoup moins d'argent, mais du coup c'est plus des cours de théâtre, des cours de DJing, des cours d'écriture,
des ateliers de cascade,
voilà. Exactement.
Ok.
Et donc ouais, c'est ça, tu donnes tu as toute la part réalisation, mais donc tu donnes aussi pas mal d'ateliers, et les ateliers d'acting et aussi des ateliers d'écriture. Et je pense qu'un truc qui nous intéresse pas mal, c'est de savoir on aime bien savoir un peu les gens, comment ils travaillent, c'est quoi leur méthode, leurs outils, tu sais, tous ces trucs là.
Bah c'est clairement ça mes cours. En fait, pour être très honnête, les cours d'écriture, c'est clairement pour une question financière, parce que par contre je comprends que les parents ils ont peur que leurs enfants passent du cinéma, parce que vraiment c'est un métier super compliqué d'un point de vue financier. Et à un moment je me suis dit non, mais là il me faut de l'argent, enfin mais j'ai, enfin voilà, je veux pas de job alimentaire. Il faut que je réussisse encore à trouver une autre source, enfin d'entrée d'argent, mais dans ce que je sais faire. Et j'ai réfléchi, ok, qu'est-ce que je sais faire? Et moi, j'adore transmettre. J'ai toujours, enfin, j'ai déjà donné cours plein de fois avec Blade Art, mais c'était jamais des cours vraiment d'écriture. Et en fait, là, je venais de terminer l'écriture de mon long métrage. Et j'avais développé plein de techniques que j'avais pas appris à l'école, que j'avais un peu appris de plusieurs endroits, puis j'ai remélangé, puis j'ai remis à ma sauce, etc. Et j'ai eu cette idée, et ça a bien fonctionné. Donc, il y a des cours plus théoriques que je donne, qui sont des trucs classiques, comment faire un dossier de prod, etc. Mais ce que je préfère transmettre, c'est vraiment mes techniques d'écriture à moi, comment je travaille en utilisant l'écriture automatique, par exemple, ou la musique, ou des sortes de mind mapping, où après je m'oblige à catégoriser selon la place que je veux donner à chaque thématique. Enfin voilà, c'est un peu des techniques, mais beaucoup de choses liées à l'instinct, à l'intuitif, parce que pour moi c'est vraiment les premières étapes d'un processus d'écriture.
Le développement des personnages. Et
ouais, totalement. Oui, oui. J'accorde beaucoup d'importance aux personnages, à, qui sont les personnages, même avant que l'histoire existe, en fait, avant qu'elle commence. Travailler sur leur passé, connaître ton personnage à 100%, même si on va en voir que 10% à l'écran peut-être. Voilà, ce genre de choses.
Dans plusieurs de tes productions que tu as réalisées, tu as aussi joué dedans. Déjà, c'est un truc que j'admire très fort parce qu'il faut vraiment deux cerveaux différents, je crois, pour faire ça. Et t'as aussi, alors, deux choses. D'une part, t'as aussi été, avec des gros guillemets, juste actrice dans un film là qui est sorti il y a pas longtemps. C'est
Temps mort.
Temps mort.
Ouais.
Comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? C'était cool. En plus, il y avait Karim Leclou.
Ouais, j'ai pas tourné avec lui malheureusement. Ah. J'aurais trop voulu. Comme par hasard.
Tu l'as pas croisé à la table de Catherine.
Non, c'est pas du tout les mêmes jours. Vraiment, je pense qu'on n'était même pas dans le même pays. Du coup, la seule fois où j'ai tourné dans une de mes propres productions, c'était pour Yasmine et Smarine, justement. Et là, de base, je ne voulais pas forcément, mais en fait, je ne voulais tellement pas qu'elle soit caricaturée, ce personnage-là, que je me suis dit, il n'y a que moi qui peux le jouer, parce que j'avais l'impression que ce n'était pas un personnage forcément positif et j'avais tellement pas envie qu'on la caricature... un peu bébête, superficielle, etc. Et je me suis dit, bon, vaut mieux que je le fasse moi parce que du coup, je vais savoir exactement comment lui donner la profondeur que je veux lui donner, mais avec beaucoup de naïveté quand même. Et je me sentais pas capable de diriger une actrice, en tout cas de manière si précise. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et j'ai pas regretté, mais c'est vrai que c'était un exercice bizarre. Je sais pas si je le referais, je pense pas. Et pour Temps mort, en vrai, ça aide d'avoir une copine directrice de casting. Mais pas que... Non, mais là, je me descends un peu. En vrai, la réalisatrice m'avait vue dans le documentaire Mon nom est Clitoris, où j'apparais, c'était il y a quelques années. Mais du coup, j'ai pas du tout joué, c'était un documentaire. Et elle aimait bien ma tête. Et puis, une fois, elle m'a croisée en rue, par hasard, alors qu'elle marchait avec, avec sa directrice de casting qui est mon amie, et du coup elle lui a dit « Ah, mais tu la connais? Ah, moi je suis dans un docu, j'aime bien son visage. » Du coup j'ai passé le casting pour le rôle de la sœur d'un des personnages principaux. Et voilà. Et donc j'ai joué, mais clairement je pense que je préfère réaliser à 1000%. C'est un hyper bon exercice en tant que réal de faire ça. Ça t'aide vraiment à diriger de manière plus précise et plus concrète tes comédiens, en fait. Donc j'avais fait un peu, enfin, à Saint-Lucas en deuxième année, on a un exercice où tu joues aussi, donc j'avais déjà un peu fait cette expérience là mais là c'était du coup de manière professionnelle, et clairement ça apporte quelque chose dans ton expérience.
Et en parlant de directrice de casting, t'as aussi monté E19, donc une agence de casting. C'était quoi l'idée, l'envie, le besoin? Pourquoi? Enfin, tu fais déjà tellement de choses. Pourquoi tu t'es lancée là-dedans aussi?
L'amie dont je parle, qui était ce casting, c'est Marie Macour, et c'est avec elle que j'ai monté l'agence, ainsi que Laura Bossicard et Femi Kidjo, qui sont aussi réalisatrices. Donc, on a commencé en 2020, il me semble. Où toutes les quatre, en fait, on considère E19 plus comme un collectif de réalisatrices qui font du casting. Voilà. Et pourquoi
bah, parce que vous faites du casting aussi pour d'autres productions
que les
vôtres.
Oui, pas pour nous. Enfin, d'ailleurs, on est en train de faire mon film. Enfin, on est en train de tirer mon film, mais sinon, on l'a pas fait pour nous. On a fait que pour d'autres projets, donc des clips, de la pub, des séries, courts métrages, longs métrages. On a fait pas mal de choses, mais c'est surtout Marie qui travaille au sein de l'agence, pour être honnête. Et en fait, déjà, y a la question de d'argent de nouveau. En fait, vivre de la réalisation, c'est super compliqué et surtout, ça prend beaucoup de temps. Moi, un des seuls métiers où je me sentais à l'aise dans le cinéma, c'était en tant que directrice de casting. Okay. Ça veut dire que c'est un peu contradictoire, mais sur les plateaux, etc., moi, je me sens pas forcément safe. Je trouve que le monde du cinéma, il est vraiment très, très moche. Du coup, si j'ai pas une place hiérarchiquement, on va dire, élevée, où je me sens protégée par ça et je sais qui je choisis dans mon équipe et comment... Enfin, ça, c'est une chose, ça va. Mais je me suis trop fait écraser. Du coup, ça, j'ai trop du mal. Et en fait, le casting, déjà, j'adore les êtres humains. j'aime trop regarder les gens. J'aime trop aller à la rencontre des gens. Et en plus, c'est quelque chose qui se faisait avant, en amont. Donc, moi, c'est un métier qui m'a toujours intéressée. Mais voilà, là, très honnêtement, je me rends compte que je vais clairement pas faire ça toute ma vie. C'est super intéressant pour commencer dans le milieu du cinéma. Mais là, ça fait 3 ans que j'ai terminé mes études. Je vais commencer mon long. Après ça, je pense que je vais faire vraiment que pour des projets gros, gros coup de cœur, le casting. Et voilà. Et ce que je préfère, c'est clairement le casting sauvage. Donc, aller à la recherche de personnes qui ne sont pas des comédiens professionnels. Et c'est une totale autre manière de caster, de trouver les gens, de travailler avec eux. Mais moi, ça me nourrit énormément. Et je me sens aussi plus légitime. Je me sens plus chez moi, on va dire. Alors qu'au final, je sors d'une école. Donc, ça paraît un peu contradictoire. Mais c'est comme ça que je le sens.
Et E19, c'est l'autoroute ?
Oui, parce que Marie est parisienne.
Ah, voilà.
Et du coup, voilà. Donc, c'est dit l'autoroute qui relie Bruxelles à Paris.
Il y a une ligne directrice, à part Bruxelles-Paris, dans les personnes que vous castez ?
Non, du tout. Travailler beaucoup à l'instinct. Ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. Ça paraît super bateau, mais en vrai, c'est la vérité. Mettre beaucoup d'humains dans ce qu'on fait. Faire très attention à la manière dont on refuse les gens, à comment on leur fait passer le casting. Enfin, il y a tellement de détails auxquels on pense pas. Et on a aussi fait pas mal chef de file, parce que ça va ensemble. Donc, chef de file, c'est quand tu t'occupes des figurants sur un plateau. Ah oui. Et malheureusement, les figurants, ils sont vraiment très souvent hyper maltraités sur les plateaux. Enfin, on s'en fout de est-ce qu'ils mangent, limite, s'ils ont froid, si... C'est comme s'ils servent à rien, alors qu'en soi, c'est un élément hyper important sur un set aussi. Donc, juste la manière dont nous, on va se comporter et enfin, on s'est vraiment battu tellement de fois avec des productions pour demander des choses totalement, en fait, essentielles et basiques, mais qu'eux n'avaient pas pris en compte pour des figurants. Bah, ça va aussi être quelque chose qui va aller vraiment dans nos priorités, quoi.
Et là, t'es en train, déjà depuis un moment, de bosser sur ton premier long. On a eu l'occasion d'évoquer plusieurs fois là durant l'épisode l'importance du collectif. Et c'est vrai qu'on dit toujours oui, le cinéma, c'est un art collectif, mais il y a quand même un grand passage où c'est très solitaire à un moment.
Alors là, je suis trop d'accord. C'était long le passage solitaire. Clairement, j'ai écrit toute seule. Et encore, j'ai pas écrit pendant si longtemps que ça, parce que je sais que certaines personnes écrivent vraiment pendant des années. Je pense que j'ai écrit en un an avec des grosses périodes où j'écrivais pas du tout, donc ça va encore. Mais c'est compliqué, surtout quand tu bosses chez toi. Il y a pas de différence entre ton bureau et ton chez toi. Pour apprendre du recul. C'est compliqué, ouais. C'est vraiment ce truc d'aventure cinématographique, c'est pas tout le temps vrai, je suis d'accord avec toi, tu passes quand même beaucoup de temps seul, et au final, face à tes questionnements, face à tes doutes, c'est toi, c'est ton film, donc
Mais la mère, t'as rencontré, je sais plus, une ou deux, enfin, elles sont à deux, je sais plus, t'as des productrices.
Deux producteurs.
Deux producteurs.
Ouais.
Et c'est cool, ça se passe bien.
Trop bien. Ah ouais, non, mais trop bien. Mais c'est, enfin, moi, je les considère même pas comme des producteurs, quoi. Enfin, moi, c'est la famille maintenant. Parce que je fonctionne comme ça aussi. Après, c'est quitte ou double. Je sais que beaucoup de gens disent qu'il faut pas tout mélanger, etc. Mais en tout cas, moi, c'est des personnes avec qui j'ai vraiment développé une relation de confiance et pas juste professionnelle. C'est des personnes avec qui je peux, enfin, encore la semaine passée, d'un coup, j'ai eu un coup de flip, genre, je leur envoie un message sans écrire bonjour ni rien, juste en mode, dites-moi la vérité, est-ce que vous trouvez que je dégage quelque chose, est-ce que vous trouvez que je dégage l'énergie d'une réelle qui a pas confiance en elle, est-ce que vous croyez que je vais me faire marcher dessus, genre, je les bombarde de questions en mode de, c'est mes psy, mes grands frères. Et j'étais avec une copine et elle me disait, mais enfin, tu te rends compte la chance que t'as de pouvoir écrire tes doutes comme ça à tes producteurs. Et en fait, je pense qu'ils ont directement compris ma personnalité aussi. C'est que je sais pas, j'allais pas faire semblant et j'ai pas tout, enfin, ces codes là de distance et tout, c'est pas moi. Donc, ils sont venus vers moi parce que je pense que ça collait aussi. Alors que ils ont un côté, enfin, ils sont très très différents l'un de l'autre d'ailleurs. Voilà. Donc, non, je suis vraiment contente de faire mon premier film avec eux. C'est un honneur.
Non, mais en même temps, je comprends ce que tu dis parce que, enfin, en fait, avec nos métiers, je trouve que c'est quand même un peu la même chose. Donc, on est aussi manager, manageuse et booker dans la musique. Et alors, certes, on a des collaboratrices qu'on peut avoir où, oui, enfin, c'est poli et voilà. Une fois qu'on s'est envoyé les mails, fin de l'histoire. Mais en tout cas, les artistes avec lesquels on bosse. Enfin, je veux dire, on partage tellement de trucs, on passe genre tellement de temps ensemble qu'en fait, ouais, ça peut pas être juste des échanges cordiaux, quoi.
Je suis totalement d'accord. Mais c'est ça aussi, enfin, ce mot manager, c'est ça aussi que, enfin, c'est ce que je ressens un peu dans ma relation avec eux, quoi.
Ça va, tout le monde va toujours aussi bien.
Est-ce que le public a des questions à poser à Maya Jmia?
Il y a des questions.
La pression.
T'avais oublié qu'il y avait du monde.
Ouais, c'est ça. J'étais dans ma bulle, moi.
Attends, il me semble que j'avais pensé à une question, mais qui m'est sortie de la tête. Parler de casting, de réalisation, de producteur, de... Ah, t'as une question à te poser, peut-être.
Non, j'allais justement dire, il y a déjà pas mal de sujets.
Ouais, oui, oui. Est-ce que par contre, toi, de ton côté, t'as l'impression qu'on a oublié un truc hyper important de ton parcours
Franchement.
Bon, évidemment, on n'aura pas pu parler de tout, mais disons les grandes lignes.
Franchement, pour moi, on a parlé de tout, là. J'ai l'impression qu'on a fait mon CV, quand même. Hein.
Ben voilà, comme ça, si jamais un jour, t'as besoin de ton CV, t'envoies l'épisode.
C'est trop pratique, ouais.
Alors, on va terminer par ce qu'on fait habituellement dans les épisodes, sauf les épisodes où ça fait 2 heures qu'on enregistre et qu'on oublie cette partie.
Tu parles des recommandations ?
Je parle tout à fait des recommandations.
Ah, mais voilà.
Ok.
Et en même temps, je dis ça et je me rends compte que... Allez-y, parce que moi, je me rends compte que j'en ai pas du tout.
T'en as pas ?
J'en ai pas, j'y ai pas pensé.
Est-ce que t'as une recommandation culturelle, que ce soit un film, un album, un livre, un truc
Ça peut même être un événement, un lieu, un compte à suivre, une activité.
Le dernier film que j'ai vu, il est trop trop bien, donc je le recommande. Mais je sais pas quand il va être dans les salles, parce que c'était au festival de Kent que je l'ai vu. C'est le dernier film de Baz DeVos qui s'appelle Here, donc ici en anglais, H-E-R-E, je précise parce que j'ai un accent nul en anglais. Et il est beau, il est doux. Il est simple dans le sens positif du mot simple et ouais, clairement c'est le premier truc qui me vient à l'esprit.
Ok. Si on parle de films, par contre là ça va être old news un peu quoi, mais je sais même plus en fait si j'en ai déjà parlé dans un de nos podcasts ou pas. Je crois que je deviens vieille et je radote. Mais tu as vu After Sun?
Oui.
Trop beau. Ouais. Voilà, ça c'est ma recommandation.
Franchement, en plus, je regarde vraiment pas beaucoup de films, mais celui-là, je l'ai vu.
Allez, j'ai tapé juste.
Non, il est beau.
Et ben, moi, je vais faire une recommandation Netflix. C'est un film qui s'appelle The Wonder.
Est-ce que tu l'as déjà recommandé ?
Non, peut-être pas dans la newsletter. Dans la newsletter, j'en ai parlé. Et donc, ça se passe ancienne Écosse, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai plus exactement géographiquement, c'est par là. Old Scotland. Et en fait, c'est Et ça commence vraiment avec un dispositif assez inattendu. T'es dans un décor de cinéma, et puis t'entends une voix off, et puis à un moment, dans le décor, tu rentres dans la première pièce, qui est en fait une pièce d'une vieille maison des années fin 1800 en Écosse. Et en fait, l'histoire, c'est... je le raconte super mal. Hein, parce que, tu vois, on m'applaudit là dans le fond. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'il y a une infirmière qui doit suivre l'évolution de santé d'une jeune fille de 11 ans qui ne se nourrit plus depuis 6 mois et qui pourtant ne meurt pas.
Ah oui.
C'est tiré d'une histoire vraie.
Oui, mais c'est une histoire vraie parce que je me demande même si moi, j'ai pas vu un truc Arte ou... Enfin, en fait, parce que quand, effectivement, quand on a parlé dans ta petite lettre, je me suis dit...
Ouais.
Mais cette histoire me dit quelque chose, j'ai déjà vu quelque chose là-dessus et c'était pas un film à proprement parler, je crois. Ou alors, non, parce qu'il est nouveau ce film ou pas?
Il est assez nouveau, ouais.
Ouais, bah et alors
c'est, voilà. Pas... c'est une série ou gros... un film?
Pardon?
C'est une série ou un film?
Non, c'est un film. Ouais, ouais. Et en fait, ça parle un peu de comment tu prends les histoires et comment les histoires peuvent modifier la vie ou là, dans ce cas-ci, la mort, puisqu'elle est à deux doigts de mourir, puisqu'elle se nourrit plus. Et en fait, ses parents croient que c'est genre...
Oui, que c'est un truc divin.
De Dieu, un truc divin, quoi. Que c'est Dieu qui la protège. Donc, elle a beau ne pas manger, elle est protégée par Dieu parce qu'elle est l'élu, quoi. Et donc, voilà, il y a un peu ce truc où tu rentres dans tes propres croyances et tu mets en péril la vie des gens. Donc, c'est la manière dont les histoires se racontent. Et voilà. Et à un moment donné, t'as la narratrice qui était là au début qui dit un truc du genre « on n'est rien sans histoire » ou je sais pas quoi. Ah. Enfin bon, voilà, c'était un super film.
Tu l'as bien vendu.
Ça vaut le coup. Pardon ?
Tu l'as bien vendu.
Voilà. Bon, bah quand même, je l'ai bien vendu, même si j'en parle mal.
Et du coup, pour finir sur les recommandations, et puisqu'on n'est rien sans histoire, on va quand même en fait recommander l'ouvrage Her Story, l'ouvrage collectif.
Tout à fait.
J'avoue, intéressant.
Non, mais de ouf, parce qu'en plus, il y a plein d'histoires personnelles qui rejoignent du coup des choses collectives.
Voilà. Je le montre au public.
Voilà, public, regardez ce livre, à quoi il ressemble, sa belle couverture.
Vous pouvez le commander dans toutes les librairies, et de préférence librairies indépendantes.
Ok, oui, et donc
allez dans les librairies indépendantes, ne l'achetez pas sur Amazon, s'il vous plaît.
C'est ça.
Et donc, en quelques mots, l'histoire du livre, c'est...
Comment ça s'est fait, d'ailleurs?
Alors là, du coup, c'est Mariam Colli qui est professeure d'université, enfin, je ne sais pas comment elle se présente, sociologue, enseignante, chercheuse à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Donc, on connaît toutes, enfin, quand je dis « on », c'est moi et les co-autrices. Et elle a décidé, en fait, de... Enfin, qu'est-ce qui nous relie, les co-autrices et moi? C'est le fait qu'on soit des jeunes femmes musulmanes nord-africaines, bruxelloises. Et du coup, elle a voulu qu'on co-écrit un livre par rapport à notre identité, liée du coup, à notre spiritualité et comment on... Pas comment on l'expose, mais comment on joue. Enfin, jouer, c'est pas le bon mot, mais... Comment est-ce que ça ressort à travers nos réseaux sociaux? Donc vraiment la question du réseau social, elle est essentielle là-dedans. Et le processus, c'était que Mariam Colli a choisi 3 de nos posts Instagram à chacune. Et du coup, nous, on a dû écrire en partant de ces posts Instagram.
Mais c'est hyper intéressant parce que en fait, c'est ça, autant le fond que la forme est trop bien, quoi.
Oui. Du coup, dans le livre, il y a aussi tous les aspects visuels avec les captures d'écran de nos Instagram, certains commentaires, et ça permet vraiment de prendre du recul dessus on a fait une analyse sociologique, en fait. Franchement. Objectivement, je trouve qu'elle a eu une très bonne idée.
Voilà. Donc, on vous invite à vous procurer ce livre.
Tout à fait.
À suivre Maya Hajmia sur ses réseaux. Oui. Parce qu'elle fait plein de trucs. Donc, si vous voulez rester au courant de tout ça,
on mettra le lien.
Tartelette _ Arissa sur l'Instagram.
Voilà.
Exactement.
Nous, c'est Amour Chips.
Nous, c'est Amour Chips, comme d'habitude.
Voilà.
Voilà. Ben, merci de nous avoir écoutés.
Merci.
Et merci au public présent ici à Bruxelles
merci
d'avoir été aussi assidu. Merci beaucoup. Vous étiez superbes. Petite ambiance.
Une petite ambiance. Allez, bonne soirée. Oh non, il refait son beatbox. Non.
Ça passe vraiment bien. Hein.
il faudrait mettre de la musique. Chips.